Nous allons aborder dans cette séquence les liens entre division sociale de l'espace et métropolisation. En particulier, nous allons aborder ce paradoxe. La ville, comme lieu de concentration des richesses, est également le lieu où se déploient et se reproduisent les inégalités. Le lien entre métropolisation, c'est-à-dire concentration démographique au plus haut niveau de la hiérarchie urbaine, étalement urbain, sélection des activités et des fonctions, le lien entre métropolisation donc et division sociale de l'espace est ancien dans sa formulation. Il est établi dès les travaux de l'école de Chicago, conduits au début du XXe siècle, à travers plusieurs modèles qui mettent en évidence les contrastes en termes de niveau de vie, en termes de composition démographique, de composition ethnique également, entre la ville-centre et les banlieues résidentielles des grandes aires urbaines. On désigne ces travaux sous le terme d'écologie urbaine. Si nos sociologues du début du XXe siècle se reconnaissaient sous le terme d'écologie urbaine, rien à voir avec l'écologie politique du XXIe siècle. Ils désignaient à travers ce terme les emprunts qu'ils faisaient à l'écologie végétale pour exprimer, pour décrire les processus et les dynamiques urbains. Les sociologues de l'école de Chicago ont formulé trois modèles majeurs de la morphologie urbaine. Le premier, le modèle concentrique, a été établi par Burgess en 1925. Il présente une ville structurée autour d'un centre d'affaires, entourée par une zone de transition dans laquelle se concentrent les entrepôts, les usines, les migrants récents également. Souvenons-nous qu'au début du XXe siècle, Chicago est une ville qui accueille de nombreux migrants en provenance de l'Europe, en provenance du sud des États-Unis également. Cette zone de transition est entourée par une première zone résidentielle, celle des ouvriers qui ont pu, au gré de la consolidation de leur position socio-économique, acquérir un logement au-delà de la zone de transition. Et puis ensuite, les derniers anneaux qui correspondent aux zones résidentielles des classes les plus aisées. Ces derniers anneaux fonctionnent comme des lieux de départ, de navette, depuis le centre, depuis la périphérie, pardonnez-moi, jusqu'au centre, navette journalière, depuis les lieux de résidence jusqu'aux lieux d'emploi. Hoyt propose un deuxième modèle, un modèle sectoriel, dans les années 30. Ce modèle souligne les choix résidentiels des classes aisées, qui privilégie les espaces les plus agréables, les plus accessibles également. Et c'est autour de ces choix résidentiels que s'organisent finalement les autres catégories sous la pression des valeurs foncières. Et enfin, en 1945, Harris et Ullman formalisent un troisième modèle polynucléaire, cette fois pour rendre compte de la structure polycentrique de la ville qui se dessine petit à petit, que ces centres secondaires envoient à des zones commerciales en périphérie, à d'anciens villages absorbés par le tissu urbain ou encore à des zones d'activité industrielle. Ces modèles fondateurs hein, dans la sociologie urbaine et les études urbaines en général ont été repris et adaptés, par exemple adaptés au cas de l'Amérique latine par John Turner au début des années 60. Les années 60 en Amérique latine, c'est le moment de l'explosion urbaine. C'est le moment de l'explosion urbaine nourrie par des migrations en provenance des campagnes qui se concentrent dans les plus grandes villes et plus particulièrement dans les périphéries des plus grandes villes. C'est effectivement des formes d'urbanisation spontanée qui absorbent la croissance urbaine. John Turner propose un modèle d'intégration socio-spatiale des migrants qui devient très rapidement une référence. Dans un premier temps, installation des migrants dans les taudis du centre dégradé, puis dans un deuxième temps, à mesure que la position socio-économique du migrant se consolide, accession à la propriété en périphérie sous la forme de logements autoconstruits, bien souvent en marge de la légalité foncière, soit dit en passant. Alors, ce modèle a été très rapidement discuté parce qu'effectivement, ce sont les périphéries en voie de consolidation qui ont beaucoup accueilli les migrants, finalement, très rapidement, plus que le centre saturé. Mais si le modèle de Turner a fait date, c'est que en reprenant le principe explicatif du modèle de Burgess, il a proposé pour la première fois une lecture positive du peuplement des quartiers autoconstruits qui était jusqu'alors perçu uniquement sous la forme de problème, du problème des bidonvilles qu'il fallait absolument éradiquer. Plus que des espaces de relégation, Turner les présente comme des espaces finalement d'intégration progressive et il propose plutôt d'aider les habitants à consolider ces quartiers. Alors, en parallèle à ces formulations théoriques, à ces reprises théoriques des modèles de l'école de Chicago, une autre voie de transmission des travaux tient finalement moins à leur dimension théorique qu'à leur réinvestissement dans des méthodes dites d'écologie factorielle urbaine qui sont essentiellement de nature quantitative, on va le voir. En effet, les travaux de l'école de Chicago ont été largement repris après les années 50 dans des travaux reposant sur des méthodes statistiques d'analyse multivariée. Quand on considère ensemble un grand nombre de variables décrivant l'occupation du sol urbain, ressort quasi systématiquement trois types de structures. Premièrement, une structure sectorielle qui renvoie au statut économique de la population résidente. Deuxièmement, une structure concentrique qui renvoie quant à elle au statut familial ou à l'âge de la population résidente. Et troisièmement, une structure en noyau qui exprime le statut ethnique dans les villes américaines ou d'autres formes de polycentrisme dans d'autres contextes. Cette décomposition de la morphologie socio-spatiale de l'espace résidentiel en trois dimensions comporte une force descriptive indéniable, comme on va pouvoir le voir à partir de quelques exemples. Ainsi, la région Île-de-France, décrit par les différentiels de revenus des habitants, l'espace résidentiel francilien se structure très nettement à partir d'une opposition sectorielle. Les beaux quartiers et leurs prolongements dans un large secteur ouest et une poche de pauvreté compacte aux portes même de la capitale. Ensuite, le gradient centre-périphérie, bien illustré par le cas des métropoles japonaises. Du fait de l'histoire du peuplement de ces métropoles, du fait également des politiques de soutien aux espaces centraux depuis les années 90, depuis la crise immobilière des années 90 au Japon, ces deux effets induisent un vieillissement spectaculaire des périphéries qui se renforce, comme on le voit sur ces cartes à Osaka. Cette image, d'ailleurs, des périphéries plus vieilles, plus âgées que le centre, renverse l'image attendue d'un centre ancien plus âgé que ses banlieues pour un Européen. Et enfin, dernier exemple, la dimension ethnique de l'espace résidentiel à Los Angeles. On retrouve ici une opposition centre-périphérie entre les suburbs blanches et les quartiers noirs et hispaniques. Si on focalise sur les quartiers hispaniques, on les repère en position centrale, mais aussi en position périphérique. On retrouve alors la structure polycentrique de l'agglomération. Modèle concentrique, modèle sectoriel, modèle polycentrique. À la fin des années 90, le lien entre métropolisation et division sociale de l'espace a été travaillé par un autre grand modèle qui a fait date, c'est celui de la ville globale et de son corollaire socio-spatial, la ville duale. L'hypothèse d'une dualisation de l'espace métropolitain a été formulée simultanément au modèle de la ville globale, formulé quant à lui par Saakya Sassen en 1991 au sujet des villes de New York, de Londres et de Tokyo. Selon Sassen, la concentration des activités financières et des services avancés aux entreprises dans les villes de rang mondial induirait une transformation structurelle de la main-d'œuvre et du marché du travail. Et cette dualisation du marché du travail induirait une dualisation des revenus des ménages et des structures sociales avec la croissance d'une part d'un groupe de cadres très diplômés, très bien payés, et d'autre part d'un prolétariat tertiaire sous-qualifié, sous-payé au service des précédents. Et entre ces deux groupes, toujours selon Sassen, la classe moyenne se réduirait fortement en lien avec le recul de l'économie industrielle fordiste. De cette dualisation sociale découlerait un accroissement de la ségrégation spatiale qui reposerait sur un face-à-face entre, d'un côté, des espaces centraux, particulièrement valorisés par les entreprises, par les ménages les plus riches également. Espaces centraux caractérisés par une hausse considérable des prix fonciers qui entraînerait finalement le départ des autres catégories. Et puis d'un autre côté, des poches de pauvreté produits de l'aggravation de la pauvreté. Le modèle de la ville globale et de son corollaire, la ville duale, a été largement débattu tant sur le plan théorique qu'à travers des études empiriques. Par exemple, au sujet de l'Île-de-France, le sociologue Edmond Prétosseil a nuancé l'application du modèle. Pour ce faire, il a mobilisé une mesure classique de la ségrégation, l'indice de dissimilarité, dont le principe est le suivant. Il s'agit de comparer la représentation d'un groupe X, le groupe des cadres par exemple, avec la représentation d'une population de référence. Par exemple, l'ensemble de la population considérée dans la ville. Si le groupe X, les cadres, est plus représenté dans un quartier que la population de référence, alors c'est un premier signe vers une distribution inégale du groupe considéré dans l'ensemble de la ville, entre les quartiers. Après avoir calculé tous ces écarts, quartier par quartier, on en effectue la somme et la somme de ces écarts constitue ce fameux indice de dissimilarité. Plus il se rapproche de 1, plus la population observée est inégalement répartie. Grâce à cette méthode, Prétosseil a montré à la fin des années 90 que les plus forts niveaux de ségrégation étaient avant tout le fait des classes supérieures et non des catégories populaires. Le modèle de la ville duale ne fonctionne donc pas parfaitement. Plus encore, il a montré que les employés, les professions intermédiaires, résidaient dans des quartiers de plus en plus mélangés. Alors pour conclure, retenons tout de même que les travaux sur des données plus récentes que celles mobilisées par Prétosseil attestent de la poursuite de ce mouvement de polarisation du côté des plus aisés et du mouvement de moyennisation également de l'espace résidentiel. Mais ces travaux montrent également que la concentration des plus pauvres augmente, même si elle n'atteint pas les niveaux des plus riches. Au final, faire de la ville un espace de mobilité sociale plutôt qu'un cadre dans lequel se reproduiraient, se renforceraient les inégalités, tel est l'un des défis majeurs de la ville du XXIe siècle.